Gloire à Dieu. Deux Rois, chapitre 7, sans tarder. Deux Rois, chapitre 7. Vous savez, ce n'est pas en vérité, des fois on fait des missions, on est invité à ça et là, et on doit porter la parole de Dieu. Et en vérité, ce n'est pas sans une émotion particulière que moi, ce matin, j'apporte ici la parole de Dieu, parce que, ben voilà, on a été stagiaires ici. Et une certaine émotion, et en même temps, dans mon cœur, je réfléchissais, je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? Et parce que, voilà, ce n'est pas toujours évident de trouver la pensée juste. Et dans le cadre de cette journée particulière, journée de baptême, alléluia, c'est une belle journée, vous en conviendrez. Amen. Et donc, j'ai choisi un thème pour nous ce matin et vraiment le désir de mon cœur, au travers de la parole de Dieu, c'est simplement de parler à votre cœur. Parler à chacun de nos cœurs. Et le thème est le suivant, une journée de bonnes nouvelles. On en conviendra, c'est effectivement une journée de bonnes nouvelles parce que cet après-midi, il va y avoir des baptêmes et on rend grâce au Seigneur pour cela. Mais je crois aussi qu'au travers de la parole de Dieu, le Seigneur veut faire du bien à nos cœurs. Vous savez, vous avez votre pasteur et je ne suis pas là pour apporter une certaine nourriture consistante qui contribue à l'édification et à la croissance de votre Église. Pour cela, il y a le pasteur. Mais je voudrais simplement apporter une pensée que dans mon cœur que j'ai, et on va la partager bien sûr, ça, ma prière c'est que ce soit nourrissant bien entendu, mais une pensée que je veux vraiment qu'elle soit comme une flèche de Dieu, qui ravive peut-être en vous une espérance brisée. Parce que ce thème-là, une journée de bonnes nouvelles, je pense que ce n'est pas là juste pour s'articuler sur cette journée, avec cette thématique, cet après-midi, un service de baptême, des témoignages, un moment de joie, de convivialité, mais par le Saint-Esprit, c'est aussi appelé à être pour chacun de nous, ce matin aussi, une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Et un moment où le Seigneur veut nous renouveler par la grâce de Dieu, dans son espérance. Amen. Donc nous lisons 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1er. Est-ce que, si c'est possible à la projection, on peut regarder le contexte, la fin du chapitre 6, s'il vous plaît, ça va être important. À partir du verset 24. Pour ma part, je connais les textes là, mais ça vous permet de déposer ainsi le tableau avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, dans le partage. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Autrement dit, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Cette femme m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui dis « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Le chapitre 7, verset 1er. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel. « Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle. » Si je fais la conversion, une mesure, donc c'est 12 kilos. Donc, vous convertissez environ 24 kilos d'orge donc, au marché de Samarie pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier, verset 2, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils se levèrent, prirent la fuite au crépuscule et abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville. Nous regardons, on va terminer là-dessus, le verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors, on aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui fut arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Une lecture conséquente mais nécessaire par rapport à notre partage ce matin, pour que vous puissiez là bien avoir les éléments de notre méditation. La parole de Dieu nous dit dans ce passage, et ça va être la base de notre réflexion ce matin, si vous devez retenir un seul verset, je vous encourage vraiment à garder dans votre esprit le chapitre 7, le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Et tout à l'heure, nous verrons si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer le roi, la maison du roi. L'Écriture nous dit donc ce passage, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je l'ai dit, c'est aussi une journée de bonnes nouvelles ce matin. Mais quand on regarde le contexte, rien ne les prédisposait à penser que cette journée était une journée de bonnes nouvelles. Mon propos, dans un premier temps, en méditant ces passages, c'était de vous encourager à partager ce message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous allons le voir, bien-aimés. Mais en priant, en réfléchissant à ce que je devais partager dans mon cœur, j'ai ressenti vraiment cette pensée dans mon cœur du Saint-Esprit qu'il fallait aussi exhorter le peuple de Dieu à saisir à nouveau cette espérance qu'il y a en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qu'il y a en Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Nous avons fait la paix avec lui, nous sommes engagés, nous sommes un jour passés, comme cet après-midi ça va être le cas, à travers des eaux du baptême, nous avons dit oui à Jésus, nous avons dit Seigneur, je veux marcher à ta suite, et nous avons saisi en son temps la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Cela est acquis, et nous bénissons le Seigneur parce que dans l'agenda de notre vie, de nos vies respectives, il y a une date clé, ça a été la date où nous avons dit oui à Jésus. Et une autre date clé où là nous avons dit, Seigneur, eh bien, voilà, je suis passé par les eaux du baptême. Amen. Il y a ces dates tellement importantes dans l'agenda, dans la vie de tout un chacun. Et ça, c'est le fait d'avoir saisi la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile, l'évangélion, la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est important. Cette bonne nouvelle est venue un jour nous atteindre. Cette bonne nouvelle est venue un jour nous trouver alors que nous étions assis dans notre misère, dans notre détresse, dans nos besoins. Et elle a donné du sens à notre existence, j'allais dire du relief à notre existence. Nous avons compris qu'on n'est pas là le produit du hasard, comme des électrons libres qui s'agitent ça et là dans l'histoire de l'humanité, mais qu'on faisait partie d'un tout cohérent, de la pensée de Dieu qui nous avait aimés dès avant les temps anciens, dès avant la fondation du monde, et que, eh bien, il avait un plan d'amour pour notre vie, qu'il voulait non seulement nous arracher au présent siècle, nous arracher au péché, nous arracher aux griffes de l'ennemi, mais en plus cheminer avec nous ici-bas et nous faire entrer dans son royaume au dernier jour. Tout cela, c'est acquis, validé. On est d'accord avec cela. Amen. Mais il y a notre réalité. C'est que parfois dans notre marche, il y a bien des souffrances, bien des difficultés. Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a fait cette promesse. Mais nous sommes conscients que, en fait, la vie ici-bas, notre pèlerinage, pendant notre pèlerinage ici-bas, nous ne sommes pas épargnés. Et que nous avons toutes et tous, ici-bas aussi, notre lot de souffrances, nos combats, nos larmes, nos épreuves, nos incompréhensions, nos déchirures, nos deuils. Il y a là dans nos cœurs et dans l'expérience de tout à chacun, alors que nous avons dit oui au Seigneur et nous sommes en marche dans cette vie chrétienne, eh bien, ces éléments que nous rencontrons à un moment donné dans notre vie, j'allais dire ces ennemis, parce que nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas la maladie, nous n'aimons pas les larmes, nous n'aimons pas le deuil. Mais le Seigneur n'a jamais dit, eh bien, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parce que je serai avec vous, vous n'aurez pas à vivre ces choses-là. Mais il nous a dit, vous les vivrez, vous les traverserez, mais je serai avec vous. Amen. Alléluia. Mais je serai avec vous. Amen. Et dans ce passage, bien-aimé, la parole de Dieu nous montre que ça a été une journée de bonnes nouvelles. Mais il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, qui peuvent nous voler dans notre cœur cela, en vérité. Qui peuvent nous voler cette paix, cette joie que le Seigneur nous a donnée. Et quand on regarde, et c'est pour cela que j'ai voulu m'arrêter avec vous sur le contexte de cette histoire, on découvre un climat de famine, un climat de guerre, d'oppression, de détresse, d'angoisse, de déchirure et même de deuil. C'est difficile. C'est très difficile. Quand on regarde le contexte, on se rend compte qu'ils vivaient des heures sombres. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient dans des moments de trouble. C'était difficile. Difficile de relever la tête. Difficile d'avoir des yeux qui ne sont pas embrumés, embués par les larmes et de pouvoir regarder vers le Dieu d'Israël, vers El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, vers Adonai. Alléluia. C'est difficile de regarder vers ce Dieu-là, l'Éternel, qui avait fait tellement de promesses, tellement de bien à son peuple, qu'il avait sorti de la servitude d'Égypte à main forte et à bras étendus, et qu'il lui avait donné un pays promis en partage. Dans ces moments-là, c'était difficile de lever les yeux et de regarder à ce Dieu-là, simplement avec assurance. Avec clarté, alléluia, avec clarté, cette limpidité dans la vision que communique le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tellement d'éléments négatifs qui étaient là, tellement d'éléments négatifs qui étaient là. Et bien aimé, dans la vie de tout un chacun, je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu veut parler aussi à quelques cœurs et l'a encouragé. Il y a eu cette espérance qu'un jour tu as saisi en Jésus-Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est acté, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et alors que tu es en marche dans la vie chrétienne, il y a toi aussi des éléments, des ennemis qui se sont dressés, des embûches qui se sont dressées sur ton chemin et qui t'ont volé cette paix, cette joie qui était là au-dedans de ton cœur, qui ont fait que tes yeux sont comme embué par les larmes et t'empêche de voir ce que Jésus veut encore t'accorder. Et l'Écriture nous dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est difficile à saisir lorsqu'on va mal que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Vous en conviendrez avec moi ? C'est difficile à saisir parce que c'est comme cela. On sait ces choses-là, mais quand ça va mal, quand nous traversons la tempête de la vie, quand nous sommes dans le trouble, dans l'angoisse, quand l'ennemi nous dit à l'oreille « Mais où est ton Dieu finalement ?» À ce moment-là, c'est dur de se dire « Mais cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » C'est dur de se dire ça, peuple de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que Élisée avait prophétisé. Élisée avait prophétisé et il a dit « Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. 12 kilos de farine pour une pièce d'argent, 24 kilos d'orge pour une pièce d'argent au marché de Samarie, au cours de Samarie. » À ce moment-là, demain à 7 heures, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Il va y avoir autre chose dans ta vie. Il va y avoir autre chose dans le peuple de Dieu. Il va y avoir une nouvelle saison. Il va y avoir de nouveaux horizons que je vais dessiner. Il va y avoir la main de l'oppresseur, la main de l'ennemi qui va se relâcher et qui va fuir. Il va y avoir le camp de l'ennemi qui va être saisi de crainte, d'angoisse. Et la panique va avoir lieu dans ce camp. Et moi, je vais le faire fuir. Excusez-moi, j'ai un mot à l'esprit. Ça va être la débandade dans ce camp-là. Alléluia. Il va y avoir ces choses-là. Amen. Ésaïe nous dit... 43:19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Et Élisée pouvait prophétiser de la même manière et dire, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Amen. Alléluia. L'Écriture nous dit à la fin du chapitre, dans ces mêmes contextes, quelques chapitres précédents, Dieu parle au cœur du peuple d'Israël et lui dit « Pourquoi dis-tu Jacob, dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant lui. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, on ne peut sonder son intelligence, il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. » Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Pourquoi est-ce que tu dis tout cela? Ma destinée passe inaperçue devant Dieu, mon droit est caché devant lui. Pourquoi est-ce que tu raisonnes de cette manière-là? Quand ça ne va pas dans notre vie, quand nous traversons l'épreuve, quand nous sommes rendus dans les mêmes contextes que le peuple de Dieu à la fin du chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure, et que ça ne va pas et que tous ces sentiments peuvent se bousculer au-dedans de nous-mêmes, le Seigneur n'exerce pas sur notre vie une sentence de jugement en disant « Mais où est donc votre foi ?» Mais le Seigneur, dans sa grâce, ce qu'il veut, c'est parler à notre cœur. Alléluia. Comme les deux disciples d'Emmaüs qui, voyant Jésus venir cheminer à leur côté, Jésus va les interpeller. « De quoi vous entretenez-vous donc en chemin pour que vous ayez l'air tout triste ? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé au sujet d'un certain Jésus de Nazareth et comment les Juifs l'ont mis à mort ? S'il y avait bien quelqu'un qui était au courant, c'était lui. » Amen. Et eux, ils disent « Mais est-ce que tu es le seul à ne pas être au courant ? S'il y avait bien quelqu'un qui était au courant, c'était lui. » C'est lui qui avait la marque des clous dans la paume de ses mains. C'est lui qui avait reçu les 40 coups moins un sur le dos et ses chairs avaient été déchirées. C'est lui qui avait eu la couronne d'épines, subi les crachats, l'ignominie et la croix. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem n'est pas au courant? Il est bien au courant. Et l'Écriture nous montre que Jésus, en cheminant avec eux, va faire quelque chose. En commençant par les Écritures, Moïse et dans toutes les Écritures, il va reprendre tout ce qui le concernait. Et à un moment, ils s'arrêtent, et vous connaissez ce passage, et ils disent, voilà, arrête-toi avec nous. Et là, Jésus est dans la maison, ils ne l'ont pas encore reconnu, et là, il va prendre le pain, il va rendre grâce, il va le rompre, et à ce moment-là, le Seigneur n'est plus, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnaissent que c'était Jésus, et ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures en chemin? Alléluia. Notre cœur ne brûlait-il pas? Ça n'allait pas dans leur vie. Ils étaient dans un chemin de douleur, un chemin d'affliction, ça n'allait pas, mais le Seigneur a réchauffé leur cœur. Alléluia. Et vraiment, mon propos ce matin, c'est ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse réchauffer vos cœurs. Amen. J'ai noté, c'est une journée de bonnes nouvelles pour les frères et les sœurs qui peuvent connaître des temps de famine spirituelle, des temps de désert de l'existence. Combien savent que si Jésus, c'est le bon berger et qui te conduit vers pâturage et près des eaux paisibles, tu peux... toi aussi connaître des déserts dans ton existence. C'est comme cela. Vous savez, le bon berger, l'Écriture nous dit dans le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le bon berger, pour pouvoir prendre soin de son troupeau, est obligé parfois de franchir, de passer par des défilés escarpés, étroits, des zones que l'on pourrait qualifier dangereuses dans lesquelles il y a des prédateurs pour pouvoir conduire le troupeau de l'autre côté, là où il y a les verts pâturages. Il ne va pas le faire séjourner dans ces vallées sombres et étroites, mais il veut juste le faire traverser pour le conduire, alléluia, dans de verts pâturages et près de eaux paisibles. Et dans la vie de tout à chacun, c'est exactement la même chose. Parfois, alors que nous connaissons Jésus comme étant le bon berger, celui qui a dit eh bien, qu'il est le pain de vie, qu'il est la source d'eau vive, qui veut prendre soin de nous, malgré tout, cela m'empêche qu'on connaît à un moment donné ou à un autre des déserts dans notre existence, des temps de famine spirituelle. Ça ne va pas, ça ne va pas, comme dans le contexte. Et là, dans ces moments-là, le Seigneur eh bien, nous invite à prendre courage et à oser croire que ces temps de désert ne dureront pas toujours, mais qu'il prévoit encore pour moi de verts pâturages. Alléluia. C'est cela le message de la parole de Dieu ce matin. C'est cela la foi dans laquelle le Seigneur veut nous renouveler, l'espérance qui nous appelle comme tout à nouveau à saisir. Amen. Demain, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura l'abondance de retrouver dans tout le pays de Samarie. Alléluia. Il y avait dans ce contexte, nous l'avons lu tout à l'heure, bien-aimés, eh bien, des situations d'oppression. D'oppression. On peut être oppressé de différentes manières en tant que chrétien aussi, connaître des combats. Et là aussi, alors qu'on a parlé de famine spirituelle et de désert dans notre vie, on peut connaître des combats. Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Parce qu'à la maison, bon, on a un mari ou une épouse qui est inconverti et qui nous fait la guerre et qui nous dit, voilà, bien, ça suffit maintenant. Et si tu vas encore à l'église, moi, je te quitte. Ou, eh bien, il faut que tu choisisses entre ton bon Dieu et moi. Vous savez, on en entend ces choses-là. Et parfois, c'est dur pour cette même personne eh bien, de persévérer dans la foi. C'est dur de toujours être dans cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, voilà, Seigneur, un jour, je me suis engagé avec toi, j'ai cru, mais au-dedans de moi-même, Seigneur, je suis comme cerné de toutes parts, oppressé. C'est comme si Ben-Hadad campait partout autour de moi et me serre, m'opprime. Mais Seigneur, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je ne me suis pas engagé pour vivre cela. On est des chrétiens, on vient à Jésus, on est à l'église, on bénit le Seigneur, on est là dans la communion fraternelle. Mais c'est tout ce qui se passe dans notre monde intérieur. Oppressé, et c'est dur. Seigneur, je ne me suis pas engagé pour vivre cela. Et vous savez, on a un discours en tant que pentecôtiste politiquement correct. Ah Seigneur, moi je me suis engagé avec toi et je ne regrette jamais rien. Ah Seigneur, c'est merveilleux. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a des fois où on se dit, Seigneur, mais si j'avais su, je me demande si je me serais engagé. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur. Parce qu'aujourd'hui, dans mon foyer, eh bien, c'est la guerre avec mon mari. Il ne veut pas lâcher prise. Seigneur, j'essaie de vivre eh bien, le témoignage le plus intègre qu'il soit. J'essaie de le bénir, j'essaie de l'aimer, j'essaie tout le temps de lui pardonner, mais il n'y a rien à faire. Il est toujours en train de, comme Pénina avec Anne, de me mortifier à l'intérieur de moi-même, de me piquer, de me faire mal, de me blesser, cerner, opprimer, oppresser, comme Ben-Hadad était autour de Samarie. Et là, c'est dur. Et là, tu dis, waouh, jusqu'à quand, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus, Seigneur. Et là, la bonne nouvelle, elle est loin à ce moment-là. Elle est très loin. Tu es content pour les jeunes qui se baptisent, tu es content pour tout cela, pour ce que tu peux voir, mais tu te dis, waouh, moi, je suis dans les situations difficiles, j'aimerais bien voir autre chose. Une bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est aussi pour toi. Le Seigneur veut relâcher l'emprise que l'ennemi exerce sur ta vie. Alléluia. Et il veut te mettre au large. Béni soit le Seigneur. Non pas parce que un homme peut le dire, mais parce que la parole de Dieu nous l'enseigne. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre que c'est lui qui a dessiné au flot mugissant de la mer la frontière et qui a dit jusqu'ici et pas au-delà. Au flot mugissant de la mer, c'est le même qui dessine les frontières de l'épreuve dans ta vie et qui dit jusqu'ici et pas au-delà. Alléluia. Béni soit Dieu. Dieu ne permettra pas que l'eau entre dans la barque de ton existence au point que tu vas couler. Mais il est là. Et tu peux encore crier à lui et par la grâce de Dieu expérimenter qu'il se lève et qu'il ordonne aux éléments déchaînés de se taire pour que le calme revienne, pour que tu arrives à bon port et que tu confesses une chose, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Grandir dans la révélation du grand je suis, de qui il est. Alléluia. C'est tellement important. C'est une bonne nouvelle pour les cœurs affligés. Les cœurs affligés, bien-aimés. Et là, on voit, il y a de l'affliction dans ce passage, il y a de la tristesse. Et elle dit, Seigneur, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et elle dit, mais avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air du pressoir? Mais qu'as-tu? Elle m'a dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Et aujourd'hui, nous mangerons mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché. C'est terrible. C'est terrible. Il y a une profonde affliction. Il y a de la déchirure dans ce passage. Une grande détresse. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour ces femmes qui en sont rendues à avoir fait cet acte odieux, innommable, à l'égard de leur enfant. Vous savez, quand il y a des situations difficiles dans une société, je fais une parenthèse, ce n'est pas mon propos, mais l'étude de ce texte nous invite à réfléchir aussi là-dessus. Lorsqu'il y a des temps difficiles dans une société, comme en Samarie ce fut le cas, ceux qui sont toujours les premiers, excusez-moi, à trinquer, c'est les enfants et les familles, toujours les enfants. Donne-moi ton fils et nous le mangerons. Quand ça ne va pas dans une société, les premiers à être impactés, c'est les enfants. C'est les enfants. Je ferme la parenthèse, on est appelé par la grâce de Dieu à en être conscient et à pouvoir veiller sur nos enfants, sur ce que Dieu nous a confié pour pouvoir les bénir. Amen. Et leur transmettre les valeurs du royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour les cœurs affligés. Les cœurs affligés. Je notais pour les cœurs endeuillés. Les cœurs endeuillés. L'Écriture nous dit que le roi va entendre ces paroles, va déchirer ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait au-dedans de lui un sac sur son corps, symbole d'humiliation, de deuil. Eh oui. Ah, les apparences, frères et sœurs. Les apparences. C'est terrible, hein? C'était le roi. Il devait montrer un bon visage. Et il devait montrer au peuple qu'il était fort, malgré les circonstances qu'ils étaient en train de traverser. Et quelquefois, nous venons dans l'église de Jésus-Christ et nous sommes exactement comme ce roi. Il y a là dans nos vies aussi bien des tensions, des épreuves que nous traversons, des temps de famine, des déserts de l'existence, des oppressions, des sujets d'affliction en grand nombre. Et là, eh bien, nous venons parmi le peuple de Dieu et nous essayons de faire bonne figure. On n'est pas là pour étaler notre détresse en public et pour nous faire plaindre et tout cela, mais nous essayons, comme ce roi, de sauver les apparences. Il y a au-dedans de nous-mêmes un sac, vêtements de deuil, d'humiliation, mais ça ne se voit pas. J'essaye de sauver les apparences. D'accord ? Et la parole de Dieu nous montre que le Seigneur, si ce matin aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes comme cela. Il y a de la détresse, il y a de l'affliction au-dedans de nous-mêmes. Et que ça ne se voit même pas, le Maître le sait. Alléluia. Et lui, ce qu'il veut dans sa grâce, c'est non pas que nous déchirons nos vêtements, mais que nous puissions déchirer nos cœurs. Alléluia. J'allais dire fendre un peu l'armure. Et le sait nous visiter au-dedans de nous-mêmes, parler à notre cœur et simplement nous dire, eh bien, Nordine, mon enfant, cette bonne nouvelle, elle est encore d'actualité pour toi aujourd'hui. Ça ne va pas. Tu traverses des temps de trouble, des temps d'opposition. Tu essaies de sauver les apparences. Tu veux montrer que tu es fort, mais au-dedans de toi-même, et tu es rempli d'angoisse et de grandes incertitudes et des questions, et tu ne sais même pas de quoi demain va être fait. Eh bien, mon enfant, sache que moi, je connais ton cœur. Je connais exactement quels sont tes sentiments aujourd'hui. Et ce que je veux ce matin, c'est te fortifier, c'est te renouveler dans cette espérance. Alléluia. C'est parler à ton cœur et que tu puisses saisir juste un instant que cette bonne nouvelle, en dépit de tout ce que tu peux vivre et traverser, elle n'a pas changé d'un iota, elle est toujours la même. Amen. Je ne prêche pas un Jésus baguette magique. Dieu, quelqu'un a écrit, parfois calme la tempête, mais parfois il la permet et calme son enfant qui s'y trouve. Alléluia. Il y a des mystères que nous devons accepter et qui nous échappent, que nous ne comprendrons pas tout, et que nous devons appréhender la vie avec beaucoup d'humilité. Mais une réalité est là, c'est que Jésus a dit, je l'ai dit tout à l'heure, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, en dépit de tout ce que je peux traverser, veut dans sa grâce toujours impacter mon cœur et produire cette vie, alléluia, qui va faire que les gens vont dire, mais c'est bizarre. Il traverse ces situations, mais pourtant, il est différent d'un autre. Je vois en lui eh bien, qu'il a quelque chose que moi, je n'ai pas. La valeur du royaume de Dieu, la vie d'en haut. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et cela jusque dans l'espérance, dans la délivrance, parce que notre Seigneur ne ment point et il est celui qui est fidèle aussi pour agir dans la vie de ses enfants et pour pouvoir les libérer de la main de l'oppresseur et pour pouvoir les mettre au large par la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai noté, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle du royaume de Dieu, bien-aimé, même pour les cœurs durs. Les cœurs durs, les incrédules. Ah, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, mon cœur, je veux qu'il soit... Je suis dans la foi, Nordine, tu sais. Mais vous savez, la bonne terre peut devenir un chemin à force d'être piétiné. À force d'être piétiné. Et nos cœurs, qui sont semblables à cette bonne terre, peuvent devenir parfois durs, lents à croire, à cause de la souffrance, à cause de l'épreuve. Et nous passons à côté de cette réalité céleste. Seigneur, un jour, tu m'as permis de saisir ta main. L'évangile est une bonne nouvelle pour moi. Non pas simplement pour hier, quand je me suis fait baptiser, et après, finalement, dans ma vie, eh bien, voilà, advienne ce que pourra, mais tout le long de ma marche, tout le long de ma marche. Amen. Et la parole de Dieu nous dit très clairement, eh bien, que cet officier du roi, voilà son raisonnement. L'officier du roi sur la main duquel s'appuyait le roi répondit, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est terrible au verset 2 de lire ces choses-là. Et c'est un cœur qui est devenu fermé, dur, dur. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, elle était aussi pour lui, hein. La bonne nouvelle, elle était aussi pour lui. Mais il va se faire écraser à la porte de la ville de Samarie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru à la parole du Seigneur. Et quelquefois, on est comme cela. On se revendique d'une certaine foi dans la parole de Dieu, dans le Dieu de l'Évangile, dans le tout est accompli, dans la puissance de la croix, dans le Christ mort et ressuscité pour chacun de nous. Mais au milieu de l'affliction, au milieu du trouble, au milieu de l'épreuve, à cause des coups qu'on a pris, à bien un moment donné, notre cœur est devenu sec. Ça ne va plus. Je ne juge personne. C'est la nature humaine qui est comme cela. Et voilà, ça ne va plus dedans de nous-mêmes. Et on devient dur et on est empêché de saisir cette bonne nouvelle. L'Écriture nous parle de Jacob, qui avait perdu son fils. Ses frères l'avaient pris, l'avaient jeté dans la citerne. Après, l'avaient vendu à cette caravane de Madianites. Ils avaient pris sa tunique de plusieurs couleurs, l'avaient déchirée, l'avaient trappée dans le sang. Et là, avaient fait croire au père que finalement, il avait été dévoré par des bêtes. Et pendant de nombreuses années, il a pleuré son fils. De nombreuses années. Et plusieurs dizaines d'années plus tard, l'Écriture nous montre, et j'ai plus le compte à l'esprit, mais je crois que c'est 20, il s'agit de 22 ans. Et oui, c'est cela. 17 ans quand il part et 33, je crois. Et là, l'Écriture nous montre que la bonne nouvelle est en train de venir jusqu'à Jacob. Il y a du pain en Égypte. Ton fils est ressuscité. Lapsus. Ton fils est vivant. Ton fils est vivant. Et il n'est pas mort. Et là, le cœur, l'Écriture nous dit que le cœur de Jacob resta froid. La bonne nouvelle du royaume de Dieu était là, mais le cœur de Jacob resta froid. Pourquoi ? Allez, on va le dire, parce qu'il avait dégusté. Eh oui, il avait dégusté. Il avait traversé ce que personne ne veut vivre. L'épreuve du deuil, tout cela, c'était dur ce qu'il avait vécu. Dur. Et la parole de Dieu nous dit que les autres fils de Jacob vont prendre ce que Joseph leur avait confié, les trésors de l'Égypte, et ils vont montrer tout cela. Et il va voir les chars, et il va voir la richesse de l'Égypte qui était remontée avec les autres fils de Jacob. Et là, l'Écriture nous dit que le cœur de Jacob se réchauffa, et Israël se leva et dit, « C'en est assez, j'irai, et je le verrai avant de mourir. » Alléluia. Jusque-là, c'est Jacob. Et il est consumé par la souffrance et il ne croit pas. Le corps de Jacob resta froid. Et à un moment donné, eh bien, Israël, vainqueur avec Dieu, se ressaisit et dit « C'en est assez. Je me lèverai et j'irai. » C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Combien même notre cœur est comme cela, devenu froid, le Seigneur ne nous condamne pas. Mais il dit « C'est pour toi ce matin. Je veux te renouveler par le Saint-Esprit. Je veux te renouveler par le Saint-Esprit. » Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, oui, ce matin, c'est une journée de bonnes nouvelles. Non pas simplement pour ceux qui vont s'engager, je l'ai largement dit cet après-midi, mais pour vous, ce matin, pour moi, pour chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Son fardeau n'est pas lourd, il est léger. Alléluia. Et il veut dans sa grâce que nous puissions redécouvrir combien il est le Dieu qui prend soin de nous dans l'expérience de la vie chrétienne, dans notre pèlerinage ici-bas, combien même nous devons traverser des temps difficiles. Il est là et il prend soin de moi. Amen. Béni soit Dieu. Et si l'ennemi t'a volé ces choses-là, ce matin, reprends-les. Reprends-les. Amen. C'est cela qui est important. On n'est pas appelé à être des chrétiens théologiquement corrects qui ont une bonne définition et ça va bien et ça correspond bien avec la confession des Assemblées de Dieu de France. Mais on est appelé à être des croyants, bien sûr, qui sont en phase avec la parole de Dieu, mais qui vivent et qui expérimentent le royaume de Dieu dans leur vie. Alléluia. C'est cela qui est important. Et Seigneur, viens à notre secours et pardonne-nous pour les fois où nous avons perdu ces choses-là. Et l'ennemi nous a volé ces choses-là. Et nous sommes retombés dans nos ornières. Et nous avons eu peur. Nous nous sommes cachés. Et toi, tu nous invites ce matin. Viens, saisis. Les quatre lépreux, l'Écriture nous dit, qui nous enseigne, ils vont dire, voilà. Ils vont se dire, là, quoi donc resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Quoi donc resterons-nous ici jusqu'à nous mourions? Qu'est-ce qu'on va faire, frères et sœurs, quand ça va mal? On va en rester là où ça ne va pas dans notre vie? Quoi donc resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Quoi donc est-ce que je vais faire? Je vais rester dans mes sentiments, dans mon mal-être, dans ce qui me ronge, dans ce qui me détruit au-dedans de moi-même, jusqu'à ce que je meure? L'Écriture nous dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons, allons. J'ai envie de dire, le Seigneur Jésus nous invite à faire, et ce n'est pas évident, j'en conviens, mais il nous invite à faire 1 000 de plus avec lui. Si quelqu'un te demande de faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alléluia. Il nous invite à persévérer dans la marche. Amen. Et à croire par la grâce de Dieu, par le miracle divin, au travers de la parole, que demain peut enfanter quelque chose de meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia, c'est le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et quelquefois, moi, j'ai envie de dire, eh ben non, Seigneur, j'ai envie de rester ici. J'ai envie de dire, comme Élie, Seigneur, c'en est assez, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y en a marre, je jette l'éponge, ça suffit. Dieu ne me juge pas, il prévoit pour moi la cruche d'eau. Et ce matin, je crois que le Seigneur met la main à notre disposition. Il prévoit sur nous, sur les pierres, le gâteau cuit de la parole de Dieu, les temps de communion. Et il nous dit quoi? Lève-toi, mange et bois. Pourquoi? Parce que le chemin est trop long pour toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu croyais que tu en avais la capacité, que c'était inné, que c'était en toi. Et que si de temps en temps, des chrétiens s'arrêtaient, c'est que quelque part, ils n'étaient pas tellement forts. Ou parce qu'il y avait eu un problème dans leur vie. Ou parce qu'ils avaient lâché la main du Seigneur simplement. Et tu t'es érigé en juge. Mais le Seigneur dit au travers de la souffrance, lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Tu n'as pas la capacité en toi-même d'achever la course. La capacité, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il dit quoi? Il dit, allons, allons. Il dit, reste pas là où tu es aujourd'hui, mais persévère. Fais un pas de plus avec moi. Avance dans la foi. Crois, saisis que ce que j'ai pour toi n'a pas changé dans iota. Alléluia, et que je veux enrichir ta vie et que je veux la bénir. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et c'est seulement, bien-aimé, on aurait pu parler beaucoup du second volet, mais dans mon cœur c'était fort, il fallait vraiment que je m'arrête sur ce premier volet. Et c'est seulement dans cette mesure-là que nous pourrons correctement accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelait, à savoir d'être ses témoins. D'être ses témoins. Alléluia. L'Écriture nous dit que ces quatre lépreux vont être bénis pour leur propre vie. Mais après, ils disent, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. C'est seulement dans cette mesure-là que l'Église pourra s'inscrire dans cette dynamique d'évangélisation, de témoignage. Pourquoi ? Parce que son cœur brûlera de ce que Jésus a accompli dans sa vie, non pas il y a longtemps, mais quand ça n'allait pas bien. Récemment, tout à l'heure, aujourd'hui, le défilé étroit, l'oppression, toutes ces choses que nous avons citées tout à l'heure, eh bien là, Seigneur, j'ai expérimenté ton secours. Tu m'as renouvelé dans la vie d'en haut et tu as renouvelé dans cette espérance et tu as, j'allais dire, dépoussiéré au-dedans de moi-même cette vérité que l'Évangile est une bonne nouvelle. Alléluia. Non pas dépassé, mais actuel, et parce que j'ai été renouvelé dans cette dimension-là, à l'image de ces quatre lépreux, eh bien, à mon tour, je peux devenir un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que j'aurais pu vous dire, frères et sœurs, vous êtes ces quatre lépreux, c'est ce que j'avais prévu en amont, en disant que nous avons été sauvés par grâce, nous aussi, à l'instar de ces quatre lépreux, et que le Seigneur nous invite à pouvoir être des témoins pour lui, et vous exhorter tout à chacun au témoignage. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et là, parfois, ça vient comme un joug sur nos épaules et on dit, eh ben oui, c'est vrai, Seigneur, je sais, il faut que je sois un témoin pour toi, tout cela. Mais c'est tellement plus léger quand nous sommes renouvelés dans la vie intérieure. C'est tellement plus léger. C'est juste normal. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a mis au large. Alors, à cause de cela, je suis renouvelé dans mon témoignage pour lui. Amen. L'Écriture nous dit dans ce contexte, et on l'a lu tout à l'heure, eh bien qu'ils vont pénétrer dans une tente, ils vont manger et ils vont boire. C'est la communion. Ils vont porter de l'argent et de l'or. Donc, on peut y voir là la rédemption, la gloire de Dieu, des vêtements et qu'ils allèrent cacher, la justification. Il y a toutes ces dimensions dans la vie chrétienne dans lesquelles ils sont eux-mêmes. Ils découvrent et par analogie, on pourrait justement définir comme cela. Mais l'Écriture nous montre qu'alors qu'ils sont renouvelés, qu'ils expérimentent la bénédiction de Dieu, eh bien, ça devient juste logique pour eux. Ils n'ont pas le droit de garder ces choses-là. Ils n'ont pas le droit. Nous le savons, nous n'avons pas le droit de garder la bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour chacun que nous sommes appelés à partager autour de nous. Alléluia. Nous le savons, mais ça devient tellement plus simple quand le Seigneur nous a fait du bien, nous a renouvelés, nous sommes renouvelés nous aussi à notre tour, dans notre témoignage. Amen. On va juste se recueillir et on va terminer ces moments par la prière. Je voudrais terminer ces moments-là. L'heure est avancée. Avant de laisser la place à votre pasteur pour conclure ces moments par la prière. Amen. J'ai voulu simplement laisser dans votre cœur et là une parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs, peuple de Dieu. Je sais que la vie chrétienne que la vie ici-bas ne nous épargne pas. Et que quelquefois nous connaissons des situations difficiles. Et la parole de Dieu nous dit cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et quelqu'un peut dire, ouais, tu le dis Nordine, tu as raison, c'est une journée de bonnes nouvelles, mais moi c'est difficile dans ma vie. Et c'est vrai, c'est quelquefois difficile dans nos vies, c'est quelquefois difficile. Mais ma prière vraiment, c'est que le Saint-Esprit ce matin réchauffe notre cœur. Alléluia, réchauffe notre cœur, nous renouvelle intérieurement. On prie ensemble. Alléluia. On peut se lever, s'il vous plaît. On ne va pas faire d'appel, mais on se lève tous à notre place. On se lève tous à notre place parce qu'on est tous concernés à un moment donné ou à un autre par ces vérités de la parole. Qui est suffisant pour ces choses ? Qui est suffisant pour ces choses ? Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il y a un moment où on veut jeter l'éponge, où on dit « c'en est assez, j'en ai marre, Seigneur, ça suffit », où on est opprimé, où on ne voit plus que ce qui est négatif, où on ne voit plus que Ben-Hadad, on ne voit plus que la détresse, on ne voit plus que cela. Ça nous arrive à tous, ça nous arrivera, si ça ne t'est pas encore arrivé, à tous, à toutes, à toi aussi. C'est comme cela. Mais la parole de Dieu nous dit que dans cette nuit particulière, il y a résonné une bonne nouvelle. Alléluia. Une espérance. Comme une lumière va briller dans les ténèbres. Amen. Et ces quatre lépreux vont la saisir, non seulement pour eux, mais pour le peuple de Dieu de Samarie et pour chacun de nous ce matin. Alléluia. et nous voulons simplement rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Et ce matin, lui dire, eh bien Seigneur, je veux m'attendre à toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es ce Dieu merveilleux qui dans nos nuits noires prévoit déjà de nouveaux horizons. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu prévois pour nous, Père éternel, de nouveaux lendemains. Tu es ce Dieu de la création. L'Écriture nous dit que, alors que tout était tohu bohu, Seigneur, alors que tout était qu'effroi, désolation, néant, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as créé toutes choses par ta parole. Et quel monde harmonieux. Et je te bénis, Père éternel, parce que tu es ce Dieu du recommencement dans notre vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Père éternel. Seigneur, parce que parfois notre vie ressemble eh bien, un peu à ce chaos, mais tu as prévu pour nous eh bien, les palettes de la tes couleurs divines que tu veux mettre là, comme un divin peintre sur nos vies, en disant je vais peindre quelque chose de nouveau, je vais faire quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est l'espérance du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle que tu as pour nous. Tu es le Dieu de la création, de toute création. Et je te prie, Seigneur, ce matin, pour que tu puisses encourager mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te prie pour que tu les fortifies. Je prie, Père éternel, pour qu'ils puissent être renouvelés et au nom de Jésus, faire reculer l'ennemi qui veut les cerner de toutes parts. Alors que toi, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai dans le nom de Jésus, qu'ils puissent faire par la foi en toi, reculer l'ennemi en avançant un pas après l'autre. Eh bien, toi, tu mets la panique dans le camp de l'adversaire et tu le fais fuir dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent avancer ainsi avec toi, un pas après l'autre et voir ce que Dieu va accomplir. Merci, Père éternel. Tu l'as dit dans ta parole, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Et c'est dans cette même foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous que nous voulons persévérer. Et à ton nom, la louange et la gloire pour ce que toi, tu as déjà fait, pour les victoires acquises. Alléluia. Et nous te rendons d'ores et déjà gloire, Seigneur, et honneur pour ce que toi, tu vas faire, parce que ce matin, nous recevons avec foi ta parole, simplement dans le nom de Jésus. À ton nom, la louange et la gloire. Amen.